problème de lunettes, malgré ma vue perçante, certains amis sont tellement loin que je ne réussis pas à les voir. Alors si votre gentillesse vous poussait dans la direction de l'avant, ça me réjouirait énormément. Nous sommes un petit groupe et c'est tellement sympathique quand on se voit. Vous avez vu, j'ai une belle cravate de surcroît, donc vous avez aussi des avantages. Voilà, je vous laisse vous installer. Merci hein, d'avoir aussitôt bien réagi. Vous avez même l'abondance dans le choix. Je vois quelqu'un qui est tout embarrassé, tellement il y a de place devant. Voilà. Chers amis, nous allons prier ensemble. Et si nous prions, Seigneur, c'est vraiment pour t'exprimer simplement dans l'intégrité de notre cœur qui veut te servir, t'exprimer notre désir d'être vraiment à ton écoute, que ce soit pour communiquer, que ce soit pour recevoir ton enseignement. Nous plaçons dans une attitude de dépendance de ta personne, de soumission à ta parole, te bénissant pour le ministère continu, efficace, permanent du Saint-Esprit pour nous parler des profondeurs de ton cœur et pour rendre accessibles, compréhensibles tes pensées afin que nous puissions ensuite avec joie les assimiler et les pratiquer. Alors bénis ce moment, Seigneur, peu importe le nombre, tu sais toutes choses. Merci parce que tu veux faire de ce lieu en ce moment un lieu privilégié de ta présence sensible. Merci. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, dans le cadre de ce 16e rendez-vous, ça monte, hein, depuis janvier 1980, et je me suis subitement rendu compte que notre tout prochain voyage en Martinique, à la fin du mois d'octobre, pour un grand mois, sera aussi mon 16e voyage là-bas. Alors il y a manifestement une sorte d'esprit de concurrence, là, j'espère que ce n'est pas trop malsain, entre la Martinique et l'église ici à Longjumeau. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre des rois. Premier livre des rois. Et je vais lire pour vous, et je suis heureux que vous suiviez cette lecture, dans 1 roi 16, verset 29, 1 roi 16, 29 à 17, verset 7. Je lis donc 1 roi 16, 29, Acab, fils d'Omri, régna sur Israël, pardon, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Acab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Acab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Acab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et nous ajoutons un tout petit échantillon du psaume 31. Dans le psaume 31, nous mettons en évidence les versets 14 au début du verset 16, 14, 15 et début du verset 16 du psaume de David, psaume 31. David est en train de brosser une toile de fond extrêmement sombre, douloureuse, et dans le cadre de cette toile de fond, il souligne, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Ou, plus littéralement, mais on peut tout à fait le traduire ainsi, mes temps sont dans ta main. Mes temps sont dans ta main. Je ne vais pas, dans le cadre de cette série, m'apesantir sur l'époque extrêmement sombre au sein de laquelle subitement Élie, cet homme hors norme, surgit sur la scène de l'histoire d'Israël, et quand j'utilise le terme Israël, c'est ici dans un sens bien précis, non pas la totalité du peuple d'Israël, c'est-à-dire ses 12 tribus, mais spécialement le royaume du Nord avec ses 10 tribus et sa toute nouvelle capitale à l'époque d'Akab, puisque c'est son père qui en a été le fondateur. C'est une ville nouvelle qui a surgi, une ville champignon, Samarie. Donc c'est bien vers ce royaume du Nord que nous nous tournons, qui a commencé son existence à travers un schisme extrêmement douloureux en 931 avant Jésus-Christ, à la fin du règne de Salomon, lorsqu'il y a eu de gros problèmes avec son fils et successeur Roboam. Et c'est un certain Jéroboam premier, puisqu'il y en a eu deux, qui finalement a créé, a provoqué ce schisme qui s'est traduit pendant une soixantaine d'années jusqu'à l'avènement d'Akab par des temps déjà extrêmement difficiles politiquement parlant pour ce royaume du Nord, puisque sur les 6 souverains qui se sont succédés dans cette soixantaine d'années, 3 sont morts de mort violente, 2 ont été carrément assassinés, un autre, on peut se poser la question, peut-être s'est-il suicidé, en tout cas, il est mort dans l'incendie de son palais. Vous voyez, c'est une période extrêmement difficile, quoique, au fur et à mesure qu'on approche du règne d'Akab, le niveau de vie, la prospérité du pays est de plus en plus évidente. C'est une période qui, curieusement, est une sorte d'âge d'or dans la vie du peuple d'Israël, en tout cas dans le domaine économique. Et puis le père d'Akab, Omri, va être un grand politicien de son époque. Il va être très connu, même parmi les peuples païens d'alentour. Il va d'ailleurs multiplier toutes sortes d'alliances, tous azimuts, dans toutes les directions. C'est un homme très habile et dont le nom ne sera pas oublié avant longtemps, même par les ennemis qui entourent le territoire d'Israël. Et puis arrive donc ce fils d'Omri, Akab, qui non seulement va marcher sur les traces de son père à partir de 874 avant Jésus-Christ, mais qui va devenir très rapidement le souverain, le roi le plus abominable du royaume du Nord. Il sera d'ailleurs tellement abominable que lorsque, dans le royaume du Sud, en Juda, lorsque le trop célèbre Manassé prendra le pouvoir pour 55 ans de règne, si mes souvenirs sont exacts, le plus long règne du royaume du Sud, le règne le plus abominable lui aussi, les Écritures feront référence à la royauté d'Akab pour montrer combien le règne de Manassé a été quelque chose d'absolument odieux. Donc ça, c'est une période très sombre, très douloureuse. Vous pourrez lire dans 1 Roi 21, versets 25-26, ce diagnostic éloquent concernant Akab et Jézabel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette période. Nous parlerons tout à l'heure des quelques livres qui sont à votre disposition à l'arrière, dont la réédition de Fidèle quoi qu'il en coûte, et je donne une place assez substantielle à la description de cette époque, parce que c'est très important pour d'autant mieux comprendre la situation difficile avec laquelle ou à laquelle le prophète Élie s'est frotté. Akab est un personnage au caractère faible. C'est un homme irrésolu, un homme dominé, excité au mal, manipulé par une épouse qu'on appellerait aujourd'hui une virago, c'est-à-dire qu'elle a un tempérament très très masculin, dans le mauvais sens du terme. C'est une femme fanatique, d'une passion dévorante, cruelle, méchante, prête à tout, une femme devenue extrêmement insensible. Pourquoi ? Parce qu'elle est une fanatique adoratrice de Baal et d'Astarté, qui étaient des divinités à la fois cananéennes, mais aussi phéniciennes. Dans son pays, les Baal et les Astarté étaient pires que les Baal et les Astarté en terre cananéenne. C'était beaucoup plus orgiaque, beaucoup plus cruel. Je ne vais pas entrer dans les détails, je préfère que nous réussissions quand même à nous endormir cette nuit. En tout cas, elle est impérieuse, elle est déterminée dans ses actes, elle est diabolique. Vous savez qu'elle va devenir le type des faux prophètes et des fausses prophétesses, en quelque sorte, d'après une des lettres de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 18 et 19, dans l'église de Thyatire. Ces prophétesses qui séduisent, qui corrompent, qui proclament, prodiguent un enseignement subtil et pervers. Et le drame, c'est que Jézabel, elle va vouloir instituer absolument et de manière la plus officielle qui soit le culte de Baal pour que le culte à l'Éternel n'existe plus. Le but de Jézabel, c'est d'éradiquer complètement la foi dans le Dieu d'Israël. Elle n'y réussira pas, mais elle va tout faire pour. Et on va d'ailleurs vivre à l'époque d'Akab la première période, ce sera la première fois dans l'histoire du royaume du Nord que la persécution va être organisée à l'échelle de la nation. Il y avait déjà eu des petites étincelles de persécution locale, mais là, c'est une persécution qui est organisée et qui est destinée à complètement faire disparaître tous ceux qui veulent être fidèles à l'Éternel. On retrouvera d'ailleurs ce style de persécution durant le règne de Manassé dans le royaume du Sud. Et alors, bien entendu, avec cette mentalité et ce fanatisme idolâtre, la situation spirituelle, morale, sociale, économique, va se désorganiser complètement. On entre alors dans une période de désordre généralisé extrêmement grave. Et alors que la nation d'Israël est en train de s'effondrer et d'arriver en quelque sorte dans tous ses domaines à son point le plus bas, Dieu intervient. Dieu intervient et il propulse en quelque sorte sur le devant de la scène un kidam, c'est-à-dire un vous et moi, peut-être, sans doute même, bûcheron dans les montagnes de Galaad, ces grandes montagnes, je dirais dans la Jordanie pour être simple aujourd'hui, où il y avait d'immenses forêts de térébintes et d'autres arbres. Mais il est fort probable que, d'après la tradition juive, c'est une des possibilités qu'il ait été bûcheron ou agriculteur même. Mais en tout cas, un homme des forêts, un homme des montagnes, un homme de la nature, un homme qui s'est frotté à tous les problèmes des éléments naturels qui se déchaînent et dans une région très peu habitée. Et voilà que cet homme, donc, qui s'est tenu dans la présence de Dieu, qui a vécu dans l'obscurité, un homme de prière, qui a cultivé une intimité avec l'Éternel, cela, nous en avons des indices à partir du chapitre 17, Dieu le propulse à la cour de ce roi Akab, à l'entrée du palais peut-être, qui sait même dans le palais, un palais extrêmement riche, parce qu'on a retrouvé toutes sortes d'indices de sa richesse, avec énormément d'ivoire, enfin c'était un magnifique palais, toutes les richesses s'y concentraient. Et là, donc, il tombe aussi, comme l'a écrit un auteur, Élie tombe dans le livre que nous avons sous les yeux, un roi 17, comme un météore. Il tombe comme un météore avec une véritable déclaration de guerre. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez lu. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Condamnation divine sans détour, sans appel de Baal. Et Baal, eh bien, c'est le maître, littéralement, c'est le sens étymologique du terme, la définition, le seigneur, le possesseur. Il est censé, ce Baal, avoir autorité sur les eaux, sur le ciel, sur la rosée, sur la brume. Il est le dieu de l'agriculture, de la pluie, de la tempête, de la fertilité. Il est le maître des saisons. Et donc, voici que, subitement, il est attaqué sur son terrain de prédilection. Que va-t-il se passer? Et en fait, il va y avoir une démonstration très éloquente de la puissance extraordinaire du Dieu vivant qui mettra en lumière l'inertie et l'impuissance totale des idoles. Et on va assister à partir de 1 roi 17 à l'une des premières des 28 interventions extraordinaires du Dieu vivant du temps d'Élie et d'Élisée. Il va y en avoir 28 qui vont se succéder si on y englobe une intervention dans 2 rois 13 et 21, qui va suivre la mort d'Élisée, qui succédera à la mort d'Élisée, mais qui sera encore en rapport avec Élisée lui-même. Et l'expression « l'Éternel est vivant » que vous trouvez ici au verset premier va être répétée 12 fois entre 1 roi 17 et 2 rois 5. C'est le surgissement du Dieu vivant et du Dieu souverain dans l'histoire de cette décadence terrifiante du royaume d'Israël. Jérémie 10, 13, à sa voix, la voix de l'Éternel, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Ou encore Amos 4, 7, moi je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Donc, voyez, nous sommes d'emblée, dans cette histoire d'Akab, devant une dénonciation, devant une condamnation sévère et sans ambiguïté de l'infidélité d'Akab et de Jézabel. C'est le pouvoir en place qui est directement visé. Alors vous imaginez, avec une femme du tempérament de Jézabel, cette femme passionnée, cruelle, vindicative, insensible, qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est que véritablement Baal et Astarté soient les maîtres absolus, les divinités absolues sur le pays, on peut imaginer que les représailles royales ne vont pas tarder. Et effectivement, elles ne tarderont pas, puisque dans le chapitre 18 et au verset 10, vous avez un petit indice très intéressant. C'est Abdias qui est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, chef de la maison d'Akab. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la souveraineté de Dieu, mais j'en parle dans un autre livre. Abdias qui se trouve nez à nez avec Élie et qui commence à trembler de tout son cœur, vu la personnalité d'Élie, et qui lui dit « Mais l'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, mon maître n'est envoyé quelqu'un pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. C'est donc la chasse à l'homme qui va commencer. C'est le mandat d'arrêt international qui est lancé. C'est Interpol qui est saisi pour se mettre aussi au travail. Alors, le Dieu qui a propulsé son prophète Élie sur la scène du royaume d'Israël est aussi celui qui va le protéger, et il va donc cacher son prophète à partir d'un ordre, verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi, toi, près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Alors, je ne vais pas ce soir m'apesantir sur un des enseignements très importants dans les Écritures, celui de la cachette. Et on a parfois beaucoup de peine à se cacher à l'heure où Dieu veut que nous nous cachions. Ça, c'est un des grands problèmes aussi de notre monde moderne. Parfois, on se cache quand on ne devrait pas, et puis on n'est pas là où Dieu nous veut, quand il veut que nous soyons en service public commandé. Mais je ne veux pas développer ce thème ici, mais simplement rappeler ici cet aspect de la fidélité de Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, c'est-à-dire puisqu'il a une relation personnelle, il m'est consacré, il m'est entièrement soumis, il m'appartient, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, c'est-à-dire ma personne. Psaume 91, 4 et 14. Et Élie obéit. Élie obéit aussitôt, malgré, disons-le au passage, le contenu absolument incroyable du message qu'il reçoit de la part de Dieu. Il est incroyable, ce message. Nous en aurons quelques indices, mais il y aurait beaucoup de choses à dire ici. Et Dieu va donc déclencher une des opérations de ravitaillement par pont aérien parmi les plus extraordinaires de l'histoire, une de ces opérations qui est extrêmement riche d'enseignements. Et le Dieu fidèle, non seulement cache son prophète, mais il nourrit son prophète, puisque la suite du texte nous l'indique, n'est-ce pas ? Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et nous pensons à tous ces beaux textes dans les psaumes et dans d'autres passages. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Psaume 33, 18, 19. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34, verset 11. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine. Chapitre 37, donc psaume 37, verset 17 à 19. Il y aurait là tant de passages à lire et qui se sont incarnés dans la vie d'hommes et de femmes, des Écritures. Je pense à Jérémie, qui tellement fidèlement, et nous le verrons, a plaidé au nom de l'Éternel, prophète courageux, et qui a été aussi protégé par Dieu, puisque jusqu'à la fin du siège de Jérusalem, au moment où les Babyloniens ont encerclé la ville, pendant un très long siège absolument abominable, il a eu sa miche de pain, parce que Dieu s'est occupé de lui jusqu'au bout. Dieu est un Dieu fidèle. Fidélité de Dieu, c'est-à-dire fidélité sans limite, toute puissante, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, psaume 36, 6. Fidélité de Dieu généreuse, de la viande deux fois par jour, s'il vous plaît. On dirait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement conseillé. Hein. Mais en tout cas, dans sa situation, c'était quelque chose d'extraordinaire. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Luc 12, 24. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Et puis fidélité de Dieu étonnante, surprenante, déconcertante, choquante. Des corbeaux utilisés pour transporter de la viande. Voici parmi les oiseaux ce que vous considérez comme abominable et dont on ne mangera pas. Le corbeau et toutes ses espèces, Lévitique 11, 13 et 15. Un oiseau impur, vorace, voleur, répugnant, se nourrissant non seulement de grains, d'insectes, de vers, de larves qu'il déterre, mais aussi de détritus et de charognes. Ça ne devait pas être très agréable à première vue de se voir servi par un de ces oiseaux. Dieu utilise des moyens insoupçonnés, irrationnels, hors normes, bizarres, illogiques, peu orthodoxes, non conventionnels, voire désagréables, pour nous secourir. Et c'est parce qu'il le fait que parfois nous refusons d'être aidés. Mais je ne veux pas développer cela ici. Il y aurait trop de choses à dire que vous trouverez aussi dans mon livre. Sa fidélité emprunte des chemins originaux qui n'entrent pas toujours dans nos schémas de pensée traditionnels acceptables. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, Ésaïe 55, 8 et 9. Attention, ça ne veut pas dire que ce que Dieu fait, il le fait en contradiction avec son caractère. Dieu agit toujours en harmonie avec son caractère. Et il n'a pas l'habitude de violer sa parole. Mais pour nous, n'est-ce pas? Pour nous en tant qu'êtres humains, pour nous disciples de Jésus-Christ, souvent nous avons une certaine idée des moyens que Dieu devrait employer pour venir à notre secours. Et parce que nous avons des idées traditionnelles, figées, liées peut-être au fait que nous rapetissons terriblement notre Dieu, nous passons à côté des moyens ou des expressions de la fidélité de Dieu qui nous plongeraient dans l'admiration si notre vision de Dieu était beaucoup plus, je dirais, à la mesure du Dieu qui nous a régénérés. Donc, pour introduire maintenant l'épreuve sur laquelle nous allons nous pencher, je vous donne simplement cet extrait d'un très bon livre. Tous ceux que Dieu emploie avec puissance commencent par être cachés dans le secret de sa présence, loin de l'orgueil humain. À ce stade, notre vision s'éclaircit. C'est là que le fleuve de notre vie est débarrassé de sa vase et que notre foi saisit le bras de Dieu. Abraham a attendu la naissance d'Isaac. Moïse n'a conduit l'Exode qu'à 80 ans. Élie a végété près du torrent. Noé a patienté pendant 120 ans avant que la pluie tombe. Paul est resté caché durant 3 ans en Arabie. La liste n'est pas finie. Pendant que ses serviteurs attendent, Dieu agit. Retenons ceci, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, j'espère que vous avez suivi, parce que volontairement, nous avons utilisé une vitesse supérieure à la normale pour ne pas nous appesantir sur la toile de fond, sur l'aspect historique, parce que nous voulons au plus tôt toucher à cet apprentissage de la fidélité dans la vie du croyant, avec pour toile de fond la fidélité extraordinaire de Dieu qui se déploie dans cette obscurité, dans ces épaisses ténèbres de l'infidélité d'une nation. Alors nous allons maintenant entrer dans dans l'épreuve, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent, c'est-à-dire de l'eau. Et ce n'est pas banal. Vous savez, nous vivons, bien que cela soit en train de changer, en ce moment, nous vivons dans des régions où, disons, nous avons très peu de problèmes d'eau. Et parce que nous gaspillons facilement ce précieux liquide, et certains événements aujourd'hui sont en train de nous pincer quelque part, en nous disant, attention, les temps pourraient vite changer. Parce que nous gaspillons facilement ce précieux liquide, nous oublions son importance vitale. C'est la ressource naturelle la plus fréquemment mentionnée du début à la fin de la Bible. On compte au moins 200 citations qui mettent l'eau en évidence dans les Écritures, plus une cinquantaine de mentions de la pluie. Il faudrait y ajouter les mentions de la rosée, et la rosée, ô combien était importante en terre d'Israël. Je crois qu'il y avait au moins 120 jours de rosée par an, et ce n'était pas rien quand on connaît l'histoire météorologique d'Israël. Alors j'ai sous les yeux une quantité de textes impressionnants qui sont des textes clés. Ça commence dans le jardin d'Éden, avec ce fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et puis toutes sortes de mentions, je ne vous les donnerai pas toutes, mais il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête, psaume 110, verset 7. Tout vivra, partout parviendra le torrent, Ézéchiel 47, verset 9. L'Éternel est la source d'eau vive abandonnée pour les citernes crevassées de l'idolâtrie des alliances coupables. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et puis vous connaissez les paroles de Jésus, parfois tellement touchantes. Je pense à la femme samaritaine qui est là, à l'heure la plus chaude, qui écarquille de grands yeux quand Jésus s'adresse à elle et ose s'adresser à elle de manière assez énigmatique apparemment, n'est-ce pas, pour évoquer la différence entre une autre eau et celle qui ne peut pas la désaltérer puisqu'elle est obligée de venir puiser encore. Et qui sait si c'est un travail? Dans certains pays, on fait des kilomètres et des kilomètres, on y passe des heures simplement préoccupé par la nécessité tellement vitale de l'eau. Et puis également cette proclamation de l'annonce du remplissage en quelque sorte par le Saint-Esprit à partir de la Pentecôte, n'est-ce pas, ces fleuves d'eau vive qui couleront du sein de ceux qui se tourneront vers le Christ glorifié pour boire, pour se désaltérer encore de manière à connaître cette plénitude intérieure. J'ai là ce texte très impressionnant qui est tiré de Terre des Hommes, de Saint-Exupéry, qui donc a vécu dans le désert plusieurs accidents, quatre accidents, et l'un de ces accidents, ce pilote, mais en même temps penseur, philosophe, remarquable par la qualité de sa pensée, de ses ouvrages, et donc dans ce livre où il raconte ce drame où il a manqué de laisser sa vie, alors finalement des Arabes aperçoivent Saint-Ex et son compagnon là, perdu dans le désert, et il écrit ceci: nous avons attendu le front dans le sable, et maintenant nous buvons à plat ventre, la tête dans la bassine, comme des veaux. Le bédouin s'en effraie et nous oblige à chaque instant à nous interrompre. Mais dès qu'il nous lâche, nous replongeons tout notre visage dans l'eau. L'eau, oh, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce s'ouvre en nous toutes les sources tarifs de notre cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde. Tu es aussi la plus délicate, toi, si pure au ventre de la terre. On peut mourir sur une source d'eau magnésienne. On peut mourir à deux pas d'un lac salé. On peut mourir malgré deux litres de rosée qui retiennent en suspens quelques sels. Tu n'acceptes point de mélange. Tu ne supportes point d'altération. Tu es une ombrageuse divinité, mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. Ce que je veux souligner par là, bien sûr, nous serons moins lyriques par certains côtés que Saint-Exupéry, parce que nous ne voudrions pas non plus que l'eau devienne subitement une idole, n'est-ce pas ? Mais néanmoins, soulignons avec Saint-Ex le caractère absolument vital du torrent de Kérit pour le prophète. Beaucoup plus vital encore que ce pont aérien avec cette viande et ce pain deux fois par jour, n'est-ce pas ? S'il y a une expression de la continuité, de la permanence, de la fidélité, de la sollicitude de Dieu envers le prophète, elle est dans l'eau. Parce que jour et nuit, en quelque sorte, alors que le prophète est là, que le soir il va s'allonger dans sa caverne, et encore aujourd'hui il y a une quantité de trous dans cette région de caverne, au moment où il s'endort, c'est en quelque sorte bercé par le bruit du torrent qui n'est pas loin de là. Quand il se réveille le matin, c'est encore en entendant ce bruit, n'est-ce pas ? Il y a là une présence qui lui rappelle cette fidélité continuelle de Dieu à son égard. Et puis voici que peut-être, et là simplement, j'ai demandé à Élie de se pousser un petit peu. Je lui ai dit, écoute, maintenant tu vas te cacher à quelque part, c'est moi qui me mets à ta place. Et donc, si vous voulez, un soir, je suis allé au bord du torrent pour me brosser les dents. Et puis, en regardant le niveau du torrent, j'ai eu le sentiment que il n'était plus tout à fait aussi haut. Alors j'ai eu un petit pincement au cœur. Je me suis couché, j'étais un peu inquiet. Je me posais des questions. J'ai mal dormi cette nuit-là, et le matin, dès le lever, dès la première aurore, je suis parti, je dirais, comme une flèche, jusqu'au bord du torrent. Et j'ai regardé de plus près. Et mon impression s'est confirmée. Et j'ai décidé de mettre des points de repère pour vraiment être sûr de la chose. Et tout au long de la journée, j'ai commencé à penser. J'ai commencé à penser à ce qui allait se passer si le niveau du torrent était vraiment en train de baisser. Et je dis, mais Seigneur, ce torrent, c'est une bénédiction de ta part à mon égard. C'est une expression de ta fidélité à mon égard. Et en même temps, c'est aussi de ta part une manière de dire, Élie, mon serviteur, je suis d'accord avec toi. Et je veux te bénir. Je veux te rendre sensible à ma bonté. Et dans ma tête, j'ai commencé à me dire, mais quel est mon péché pour que le niveau du torrent baisse de cette manière ? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? En quoi suis-je coupable ? Pour que le niveau de la bénédiction, en quelque sorte, dans ma vie, soit en train de baisser. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'eau du torrent, nous le verrons, normalement dimanche après-midi. Ce sont tant d'aspects vitaux de la bénédiction de Dieu dans notre vie. J'ai une activité professionnelle, c'est une bénédiction de Dieu. J'ai suffisamment de santé, c'est une bénédiction de Dieu. J'ai suffisamment d'argent pour vivre, c'est une bénédiction de Dieu. Et je pourrais ainsi multiplier, n'est-ce pas, les exemples.
Et alors, bien entendu, quand le schéma ne colle plus, n'est-ce pas? Quand les choses commencent à se dérégler, je me pose des questions. Et effectivement, peut-être qu'en réfléchissant devant Dieu, le Saint-Esprit va me rendre attentif à des choses qui doivent être réglées, à des problèmes qui doivent être réglés. J'ai peut-être effectivement un problème à régler avec mon frère, avec ma soeur, avec mon mari, avec mon épouse, avec un des enfants, avec mon patron, avec un de mes collaborateurs, avec un de mes subalternes, que sais-je encore, avec un de mes voisins de palier. Et donc, je vais aller régler ces choses. Parce que j'ai soif de vivre vraiment en harmonie avec Dieu et d'avoir l'approbation de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas me passer de l'approbation de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas qu'il y ait de nuages entre lui et moi, entre moi et lui. Donc je règle les problèmes. Et ensuite, quand j'ai réglé les problèmes, je fonce jusqu'au torrent. Et je dis, écoute Seigneur, si j'ai réglé tous mes problèmes, je t'ai demandé pardon, le niveau du torrent va remonter. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous réfléchissons si souvent? Nous avons un nombre incroyable de livres évangéliques qui nous présentent avec un langage très varié ce type de schéma pour notre vie avec Christ. Ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, c'est ça. Vivez près du Seigneur, vous serez riche. Éloignez-vous du Seigneur, vous serez pauvre. Et votre pauvreté sera une conséquence de votre incrédulité, de votre péché. Alors vous savez, quand on est dans ce type de situation, où on a réglé ses problèmes, et où malgré tout les choses ne s'arrangent pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on commence à faire ce que j'appelle de l'introspection morbide. C'est-à-dire qu'on commence à creuser dans ses pensées, dans son cœur, à être à l'écoute, pour voir si Dieu n'a pas à nous suggérer encore quelque chose qui n'aurait pas été réglé. Et on commence à inventer des fautes dans sa vie. Et on les invente d'autant plus facilement si, humblement, on va vers un frère, une sœur dans la foi, pour partager notre malaise, qu'on leur explique, vraiment ça ne va pas. Ma coupe a cessé de déborder. Le niveau de mon torrent a baissé. Voilà ce que j'ai fait. J'ai réglé et ça continue. Et souvent, on se culpabilise encore davantage parce que face à ce que nous avons expliqué, le regard de celui ou de celle qui veut nous aider, parfois, devient quelque peu sceptique, incrédule. On nous dit avec politesse, mais tu es sûr d'avoir vraiment réglé les choses? On suspecte. Et ça aggrave encore la situation. On peut être extrêmement intransigeant, avoir des équations couperées, n'est-ce pas? Pensez aux compagnons de Job, hein? Nous y reviendrons. Alors, bref, j'ai tout essayé. Et bien sûr, vous le savez, Élie était un homme de prière. Cela veut dire aussi qu'étant un homme de prière, connu dans les Écritures pour la qualité de sa vie de prière, pour sa ténacité, pour sa persévérance, pour sa passion dans la relation avec Dieu par la prière. Il prie, rien ne se passe. Le ciel reste fermé. Alors il arrive un moment où le doute s'infiltre. Et maintenant, ce n'est plus le doute quant à mon problème, mais c'est le doute parce que je vois un problème chez Dieu. Dieu n'est pas fidèle. S'il était fidèle, il répondrait à ma prière. Si Dieu se tait dans cette situation, alors qu'il connaît les désirs de mon cœur, alors qu'il sait combien je me mobilise pour vraiment vivre en harmonie avec lui. Je fais absolument tout, Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire plus. Comment est-il possible que Dieu se taise face à mon plaidoyer incessant? Et puis, avec le doute, vient souvent la révolte. La révolte à cause du regret de lui avoir obéi. Pourquoi? Ben, si le torrent est en train de baisser, c'est aussi parce qu'à un moment donné, Élie a répondu présent à l'appel de Dieu alors qu'il était encore dans ses montagnes, qu'il a laissé sa forêt, sa hache et tout le reste pour s'aventurer jusqu'au palais d'Akab, risquer sa vie. Et donc, quelque part dans son cœur, ça gronde parce qu'il dit, mais Seigneur, tu es ingrat. Alors, je t'obéis, et puis voilà le résultat maintenant. Je t'ai obéi, j'ai risqué ma vie pour toi, et voilà comment tu me récompenses. J'essaye simplement, rapidement, d'entrer dans toute cette succession de systèmes de pensée que nous mettons en place, et qui... Pourquoi Dieu se tait alors que nous voulons vivre à fond pour lui? Et il arrive un moment où nous nous disons, si Dieu ne répond pas à mes prières, ben c'est qu'il m'a laissé tomber. Dieu m'a abandonné. Et combien de fois il m'est arrivé dans les entretiens tête à tête avec tel ou tel frère, telle ou telle sœur, spirituellement à la dérive, d'entendre cette affirmation. Dieu m'a abandonné. Et le problème, c'est que lorsqu'on vit avec cette pensée que Dieu nous a abandonné et qu'on est dans ces situations difficiles, vous rendez compte, il y avait presque plus d'eau dans le torrent. On commence à élaborer dans son esprit, dans ses pensées, des solutions pour sortir du problème tout seul. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire quand il n'y aura plus moyen de récupérer une seule goutte dans le torrent? Et donc, on commence à rechercher des combines. On commence à bricoler des solutions humaines. On se tourne vers le système D, pas seulement comme des bruits, mais comme d'équerre aussi. C'est pas vrai? Combien de fois, précisément parce que le torrent était pratiquement à sec, et que nous étions dans une situation d'urgence, parce qu'on ne peut pas vivre longtemps comme ça sans boire, sans manger encore, mais sans boire. On a essayé de bricoler la solution et on s'est retrouvé parfois dans des situations inextricables, comme nous allons le voir. Je me souviens d'une étude sur ce sujet en Suisse où, après l'étude, sur cette partie, quelqu'un est venu me voir et, dans le moment d'entretien que nous avons eu, il m'a dit « Moi, j'aurais été tenté de construire un barrage pour retenir l'eau. » Solution. Alors, je pense, je vous lance, que dimanche après-midi, nous parlerons des barrages que nous pouvons construire. Nous allons actualiser, essayer de comprendre ce que sont exactement ces torrents pour nous aujourd'hui et maintenant. Et lors d'un entretien aussi dans le même cadre, quelqu'un m'a dit, mais voyez-vous, dans cette situation, je ne peux pas faire autrement que d'être un peu malhonnête. Ça fait partie du bricolage. Dans ces situations difficiles. Alors, nous pourrions déjà prendre quelques exemples dans les Écritures. J'en prendrai en tout cas un. Je connais dans les Écritures un torrent qui a baissé au fil des ans et il a baissé durant 25 ans. C'était le torrent de la vie physique chez un couple. Abraham et Sarah. Ils avaient reçu une promesse de Dieu d'une descendance qui serait issue vraiment de leur union. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? 10 années ont passé. Et pendant 10 ans, le torrent de Kérit de leur vie physique s'est amoindri de plus en plus. Et bien entendu, plus le temps passait, plus ça devenait une folie de concevoir la possibilité d'avoir un enfant. De toute façon, c'était déjà du domaine du miracle. Mais enfin, 10 ans. Alors, en voyant la décrépitude progressive, puisque Sarah dira même qu'elle est une ruine dans Genèse 18, d'après le texte hébreu, finalement, on a commencé à se tourner vers le système B comme débrouille. Et ça a été Agar, on s'est égaré avec Agar, ça a été Ismaël, et c'est le problème d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est encore une des suites à très long terme de ce qui s'est passé un jour. Parce qu'il a fallu, ou on a voulu, trouver une combine qui marche pour sortir d'une situation d'impossibilité humaine. Or, 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, vous voyez que le torrent était encore loin d'être à sec, 15 ans plus tard, l'enfant est né. L'enfant de la promesse, l'enfant de la grâce, Isaac, 15 ans plus tard. Je pense à Moïse qui monte sur la montagne de Dieu, sur le Sinaï, dans le désert, peu après la sortie d'Égypte, pour recevoir les tables de la loi, etc., n'est-ce pas? Et puis le peuple qui ne le voit pas redescendre, qui scrute le haut de la montagne pendant des jours, et qui finalement écoute. On ne sait pas quand il va revenir. Alors, on n'a plus d'espoir. On a besoin d'un chef. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, n'est-ce pas? Bricole. Combine. Système B. Et vous avez remarqué, c'est impressionnant ce verset 7 et 8. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en Sébo. Lève-toi, va à Sarepta. C'est quand le ruisseau a été à sec, et pas avant, que Dieu a révélé le pas suivant. Et vous avez remarqué cette expression du début du verset 7, « mais au bout d'un certain temps ». J'aime qu'il ne soit pas dit combien de temps ça a duré. Comme ça, chacun d'entre nous sait que ça le concerne. Parce que vous savez que dans nos mentalités, en fonction de notre situation, même de notre culture, de tant de choses, le temps, les minutes n'ont pas la même durée, les heures et les jours n'ont pas la même durée. Hein. Pour les uns, ça passe très vite, pour les autres, très lentement. Quand vous jouissez d'une situation merveilleuse, vous aimeriez que ça dure beaucoup plus longtemps, hein, ça vous semble trop court. Par contre, si vous êtes sur le grill et les charbons ardents d'une situation difficile, hein, c'est exactement le contraire. Au bout d'un certain temps, l'épreuve du temps. Première des 5 leçons du torrent de Kérit. Apprendre l'apprentissage de la fidélité dans notre relation avec le Dieu infiniment fidèle au niveau du temps. Vivre dans le temps de Dieu. Avec la pose d'une première pierre, le Dieu fidèle est maître absolu du temps. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui et maintenant. Dieu travaille avec le temps. Les Écritures nous présentent le temps comme un chargé de mission de Dieu, du Seigneur. Tout arrive au temps fixé par Dieu. D'ailleurs, Isaac est né, Genèse 21, je crois, verset 2,
Isaac est né au temps fixé dont Dieu avait parlé à Abraham et Sarah. Au temps fixé par Dieu. Et ça va très loin, puisque dans Apocalypse 9:15, il est question de quatre anges prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. L'exactitude de Dieu dans le domaine du temps. C'est au temps marqué que Jésus est mort sur la croix. Romains 5:6. Et j'ai sélectionné cette pensée bienfaisante. Dans la merveilleuse providence de Dieu, chaque maillon de la chaîne s'ajuste à sa place avec la précision la plus délicate. Rien ne vient une minute trop tôt, rien ne traîne. Parmi les étoiles, il n'est aucun mouvement laissé au hasard. Les hommes calculent les passages, les éclipses, les conjonctions, un millier d'années à l'avance, et savent, à la plus petite fraction de seconde près, que leurs calculs se vérifieront. Le soleil ne se lève jamais en retard. Aucune étoile ne se couche trop tôt. De même, en ce qui concerne la providence, la manière dont Dieu pourvoit, tout arrive en temps utile. L'horloge de Dieu ne retarde jamais d'une seconde. Ça, c'est une pierre angulaire. Dieu travaille avec le temps. À côté de cette pierre angulaire, seconde pierre tellement importante dans la philosophie divine du temps, en quelque sorte, Dieu intervient quand il veut. Et au meilleur moment. Attention, au meilleur moment, selon sa pensée. Nous n'avons pas l'impression que c'est le meilleur moment. Bien au contraire. Nous sommes souvent catastrophés. Mais Dieu intervient quand il le veut, au meilleur moment, car il est sage. En 1346, pendant la guerre de Cent Ans, l'armée britannique du roi Édouard III tombe sur un bataillon français à Crécy. Le fils du roi, le prince Édouard, dirige une division, tandis qu'Édouard III se tient à l'arrière, donc son père, avec une troupe de soldats prêts à intervenir si nécessaire. Et voilà que peu après le début de la bataille, le prince se croit en danger. Il envoie donc quelqu'un demander de l'aide, mais le roi ne vient pas à son secours. Alors le jeune Édouard s'affole, il envoie un autre message dans lequel il exige une assistance immédiate, et son père de répondre au messager « Allez dire à mon fils que je ne suis pas un commandant sans expérience. » Pour ne pas savoir quand il est nécessaire d'envoyer du renfort, ni un père assez insouciant pour ne pas l'envoyer. Et ça, c'est un homme qui l'a dit, qui s'est plus d'une fois trompé dans l'évaluation du juste moment. Mais quand notre Dieu nous dit cela, c'est autre chose. En progressant dans notre réflexion, premièrement, Dieu travaille avec le temps, deuxièmement, Dieu intervient quand il le veut, troisièmement, aïe aïe aïe, Dieu intervient in extremis aussi, à la dernière minute, pire encore, je dirais quand même mieux encore, il arrive même, comme ici dans ce récit d'un roi 17, que le mur du temps, on parle du mur du son, on parlera maintenant du mur du temps, que le mur du temps soit franchi et que la situation soit désespérée. Il n'y avait plus d'eau. Et c'est ça ce qui nous gêne. Nous sommes déjà sur le grill quand Dieu tarde à intervenir, encore plus sur le grill. Quand il intervient à la dernière minute, mais alors, quand la situation est totalement désespérée, qu'à vue humaine, il n'y a plus aucune solution et que Dieu n'est pas encore intervenu, alors là, c'est la panique. Alors là, on est déjà plongé jusqu'au cou dans les calculs et dans les alliances, etc., pour sortir par nous-mêmes de ce gouffre sans fond. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que ça arrive à tout disciple de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Vous êtes au mardi de la semaine? Une réponse nécessaire, importante, doit intervenir absolument d'ici le vendredi soir 18h. C'est vital, c'est pour un choix, vous êtes à un carrefour, ça engage peut-être même votre avenir, peut-être des sommes d'argent très importantes, un voyage également important, un rendez-vous très particulier. Et puis, ça va encore le mardi. Le mercredi, ça va déjà un peu moins bien. Parce que on scrute le téléphone en se disant, mais est-ce qu'il va sonner ce téléphone? Et puis dans sa petite tête, ça commence à bouillonner. On commence déjà à se dire, mais si jamais j'ai pas la réponse. Et on commence déjà à développer des embryons de solutions de bricolage. Alors le jeudi, ça devient épouvantable aussi pour l'entourage, on devient exécrable dans les relations avec l'épouse, avec les enfants, on est vraiment là dans une situation terrible. Le vendredi, on est à la veille de l'infarctus, ou je ne sais pas de quelle autre maladie fatale, et subite, il n'y a toujours pas de solution. Et puis les heures du vendredi s'égrènent, comme celles d'un condamné à mort qui va passer sur la chaise. Et puis c'est à 17h59 que le téléphone sonne. Moi je me souviens, si je vous dis ça, c'est pas de la théorie, c'est parce que je l'ai vécu. Et que c'est terrible. Et je sais aussi que dans ma vie, il m'est arrivé de ne pas attendre et d'avoir échafaudé des solutions. Et finalement, de m'être mordu les doigts parce qu'ensuite, quand la réponse est venue in extremis, je ne pouvais plus faire marche arrière. Et j'étais bien embarrassé. Et on traîne après des casseroles avec soi, des conséquences pendant un certain temps, n'est-ce pas? Quelqu'un écrit, bien que Dieu ne soit jamais pressé, il n'est jamais en retard. Son timing est parfait parce qu'il contrôle tout ce qui se passe. C'est une leçon difficile pour nous parce que nous sommes des mortels impatients. Cependant, nous devons la maîtriser si nous voulons rester synchronisés avec Dieu. C'est lorsque nous sommes sous pression que nous sommes le plus vulnérables et susceptibles de commettre de grandes erreurs. Et voyez-vous, c'est là que les moyens modernes de communication deviennent parfois nos pires ennemis. Moi, j'en ai peur des moyens modernes de communication. Autant je me réjouis de leur existence à certains égards, autant par ailleurs je m'en méfie. Auparavant, on avait le téléphone qui s'est répandu peu à peu, mais alors maintenant, tout va tellement plus vite. Il y a le fax, il y a Internet, il y a les emails, il y a... Et c'est problématique. Parce qu'il n'y a plus rien pour nous freiner dans la recherche de nos combines. Quand Dieu ne vit pas à notre rythme et n'intervient pas lorsque nous claquons du doigt, n'est-ce pas? Intervention in extremis de Dieu. Pensez au sommet des épreuves d'Abraham dans sa foi, Genèse 22. Après une marche qui a dû être au fond du cœur d'Abraham, un véritable supplice, pendant 3 jours, vers le lieu du sacrifice, avec son fils à côté de lui. Dieu laisse faire. L'autel est dressé. Le bois est mis. Le jeune homme est lié sur l'autel. Et ce n'est que lorsque la main d'Abraham s'élève et est sur le point de retomber dans ce geste terriblement odieux qui aurait apparenté le Dieu d'Israël aux divinités les plus abominables. J'ai parlé les assortés, oui. Alors Dieu intervient. Et il arrête le geste. Et vous connaissez ces textes, je sais maintenant que tu crains Dieu. Maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Voyez-vous, il y a des maintenant que nous manquons. Au fil de ces deux dernières semaines, nous avons été assaillis d'un certain nombre de coups de téléphone de personnes en grave difficulté, curieusement. Et à une de ces personnes, à un jeune homme qui risque de faire une immense gaffe pour la suite de sa vie, j'ai dû dire, c'est maintenant que tu vas prouver si tu es vraiment au Seigneur ou non. Tu as un rendez-vous avec Dieu maintenant. Et en fonction du choix que tu vas faire, tu vas montrer ce que Jésus-Christ représente pour toi dans ta vie. Tu es devant un choix. Alors maintenant, j'attends sa réponse. Nous aurions pu prendre le test manqué du jeune roi Saül dans 1 Samuel chapitre 10 et au verset 8. Lorsqu'il est dit, voici, je descendrai vers toi à Gilgal pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire, c'est-à-dire le moment d'entrer en guerre, en campagne contre les Philistins. Donc à partir du moment où Saül allait arriver dans cette phase finale, préparant la guerre contre les Philistins à Gilgal, du moment où il posait le pied à Gilgal, il devait attendre 7 jours jusqu'à ce que Samuel vienne. Et un peu plus loin, au chapitre 13 et au verset 8 et suivant, il est dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. C'est-à-dire qu'un torrent était en train de baisser. La situation se déstabilisait autour de Saül de plus en plus. Tout le monde, tous les soldats d'Israël avaient peur, n'est-ce pas? Les rangs s'éclaircissaient. Le moral était de plus en plus bas. Et le temps passait. Et Samuel n'arrivait pas. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste qu'il n'avait absolument pas le droit de faire. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arrive. Vous voyez, arrivé in extremis, mais c'est déjà trop tard. Il a craqué le 7e jour. Et lorsque Samuel arriva, Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Et Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Vous remarquez que tout le monde est coupable sauf Saül. Il passe tout le monde en revue. Le peuple, Samuel, les Philistins. Tout le monde est coupable. S'il a craqué, ce n'est pas de sa faute. C'est lié aux circonstances. Et que lui répond Samuel? Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours ton règne, aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il y a des combines qui coûtent cher. Cette impatience de l'incrédulité chez Saül l'a écarté de la royauté. Ça n'a pas été la seule. Au chapitre 14 du même livre, vous avez une autre impatience d'incrédulité, du même type. C'était donc quelque chose qui était constant, qui était une habitude, qui était en train de se développer, un refus de respecter le temps de Dieu. Et mes bien-aimés, c'est une des grandes écoles de fidélité. Apprendre à respecter le temps de Dieu. Dans un monde où on n'a plus le temps, où on se précipite tout le temps, où on se disperse, où on s'éparpille, où on se disloque dans une quantité incroyable de priorités dont les trois quarts ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. Et où on est incapable finalement de discerner le temps de Dieu parce qu'on ne vit pas suffisamment dans son intimité. Un homme de Dieu a écrit ceci: il y a dans la vie des heures où se joue toute notre existence spirituelle. Des heures décisives dont dépendra pour nous une vie de puissance ou de faiblesse. Des heures où le travail de plusieurs années peut être scellé ou anéanti. Des heures qui peuvent ouvrir une voie à une vie de bénédiction ou la fermer définitivement. On peut, dans ce qu'on appelle une heure de faiblesse, laisser échapper des bénédictions qui ne pourront plus être retrouvées. Ça apparaît cruel. Et pourtant, mes bien-aimés, ça appartient au temps de la grâce. Que de jeunes gens et de jeunes filles, parce qu'ils n'ont pas attendu l'heure de Dieu pour le mariage, ont vu les années passer, ont été de plus en plus inquiets de ne pas trouver chaussures à leurs pieds, et ont finalement utilisé des combines, violant des règles fondamentales voulues par Dieu pour le bonheur de l'homme. Celle du refus de toute relation sexuelle avant que le mariage soit vraiment là, acte officiel, public, devant témoin, Dieu étant le premier, mais il y en a d'autres. Et mes amis, et ben après on vit avec. On vit avec. On vit avec les conséquences. Et on a beau être converti, on a beau être consacré, on a beau vouloir vivre à 200% avec le Seigneur, jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'on a devancé le temps de Dieu. Parce qu'on a pensé qu'il ne faisait pas les choses assez vite, qu'il ne comprenait pas notre problème. On se retrouve dans des situations tellement douloureuses qui se produisent alors qu'ils sont en train de devenir monnaie courante dans nos églises. Où Dieu, hélas, trop souvent n'est plus le Seigneur dans notre pratique quotidienne. Alors il y a de très beaux textes dans la vie de David. Vous savez, David, le successeur de Saül, a été formé notamment précisément dans le domaine de l'épreuve du temps. Pendant plus d'une dizaine d'années, il pouvait, au fur et à mesure que la situation devenait de plus en plus grave dans l'obstination orgueilleuse et cruelle, meurtrière de Saül pour l'éliminer, son torrent baissait peu à peu. Sa souffrance se faisait de plus en plus intense. Et à diverses reprises, Saül et ses 3000 hommes d'élite a été sur le point de pouvoir s'emparer de lui. Mais aussi, vous le savez, à plusieurs reprises, Saül s'est placé dans une position de vulnérabilité extrême, puisqu'il lui suffit d'un rien, et surtout d'un feu vert de David, pour que Saül soit immédiatement mis à mort. C'est-à-dire qu'en permanence, pendant cette dizaine d'années, une des épreuves pour l'apprentissage de la fidélité à l'Éternel dans la vie de David, ça a été l'épreuve du temps. À un moment donné, il a été sur le point, dans 1 Samuel 24, de mettre la main sur loin de l'Éternel. Il y était poussé. Et de par soi-disant la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, tue-le ! L'Éternel te dit. 1 Samuel 24. Mais sa conscience l'a repris. Et il a refusé de devancer le temps de Dieu. je ne mettrai pas la main sur lui, même si je dois souffrir injustement. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et dans 1 Samuel 18 à 30, vous avez une quantité d'éléments qui appartiennent à la pédagogie du temps. Je ne vous en donne qu'un seul, c'est dans 1 Samuel 23, versets 25 à 28. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David qui descendit sur le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Ah, c'est foutu. On a l'impression de voir un film, un western. Hein. Ça y est, entouré. C'est cuit. Et puis, vous n'aimez pas la Bible ? C'est extraordinaire ces passages. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David qui s'en retourna pour aller à la, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi. C'est pas extraordinaire. Intervention in extremis de Dieu. David a dû se dire maintenant c'est fini. La haine de Saül est arrivée à son point maximum. J'ai pu jusqu'à ce jour lui échapper, mais maintenant c'est fini. Nous sommes encerclés. Et peut-être dans sa tête, s'est-il quelque part préparé à mourir. Puis Dieu est intervenu. La fin de l'homme est le commencement de Dieu. Quelqu'un écrit, cessez de vous ingérer dans les plans et la volonté de Dieu. Quand vous le faites, vous gâchez son œuvre. Vous pouvez déplacer les aiguilles d'une montre, d'une horloge, si cela vous convient. Mais vous ne changez pas l'heure pour autant. Vous pouvez hâter le dévoilement de la volonté de Dieu, mais en agissant ainsi, vous n'aidez nullement son œuvre. Laissez tout entre ses mains. N'essayez pas d'accélérer l'éclosion du bouton de la promesse de Dieu. Vous ne ferez que gâcher la fleur parfaite. On a évoqué Jérémie, on va s'arrêter. On a évoqué Jérémie. 40 ans de fidélité jusqu'à ce siège terrifiant à Jérusalem, 587-586. Dieu lui a fait des promesses, comme quoi il allait avoir la vie sauve. Il les lui a répétées à plusieurs reprises. Et puis, dans Jérémie 40, vous avez ce passage qui est bouleversant quand on l'examine dans ce contexte de la totalité de la vie d'Élie, la parole, Jérémie 40, verset 1er, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui renvoyait de Rama, et Rama, c'était la première étape de la déportation vers Babylone. C'était là qu'étaient rassemblés les prisonniers pour partir vers Babylone, avec tout ce que ça pouvait signifier comme horreur. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on a emmenés à Babylone. Vous rendez compte? Dieu lui avait promis qu'il aurait la vie sauve, qu'il s'occuperait de lui. Il avait en fait même été libéré de prison sur l'ordre de Nebuchadnezzar peu avant. Et il semble qu'il y a eu à quelque part un raté et qu'un subordonné de Nebuchadnezzar ait fait du zèle. Et donc décider de quand même l'emprisonner. On le voit à partir du chapitre 39. Alors moi je me vois dans cette chaîne de prisonniers. 40 ans de ministère derrière moi. Les promesses de Dieu qui résonnent dans ma tête. Tout ce que j'ai déjà vécu, toutes les fois où j'ai échappé à la méchanceté de l'homme, à des choses terribles, où j'aurais pu mourir au fond d'une citerne, complètement asphyxié, la vase pénétrant dans ma bouche, etc. Mais Seigneur, maintenant, tu vois, j'ai des chaînes aux mains, aux pieds. Je suis là dans une colonne de prisonniers. Est-ce que tu m'as abandonné? Et puis, le texte est si beau, n'est-ce pas? Le chef des gardes envoya chercher Jérémie, verset 2, lui dit, l'Éternel, ton Dieu, a annoncé, etc., ses malheurs, et tu es libre. Je te délivre des chaînes que tu as aux mains aujourd'hui. l'aujourd'hui de Dieu, le maintenant de Dieu. Dieu est fidèle. À son heure, à son moment, il intervient. Laissez à Dieu le temps, et même au moment où le couteau fendra l'air, vous verrez le bélier dans le buisson. Laissez-lui le temps, et même si les armées de Pharaon sont sur les talons d'Israël, vous verrez tout à coup s'ouvrir le sentier au travers de la mer. Laissez-lui le temps, et lorsque le lit du torrent sera asséché, Élie entendra la voix de Dieu qui le dirigera. Mes temps sont dans ta main, dira David. Heureux sommes-nous, vous et moi, si nous sommes d'accord vraiment de nous mettre sur ce banc d'école de la fidélité à l'Éternel, au Seigneur, dans le domaine du temps. Apprendre à vivre dans le temps de Dieu, au rythme de Dieu. Jésus l'a fait. C'est un des grands thèmes de l'évangile selon Jean. Jésus qui vit dans le temps du Père. Les uns le poussent à devancer le temps du Père, pendant que les autres le poussent à prendre du retard sur le temps du Père. Et Jésus résiste aux uns comme il résiste aux autres. Et c'est ainsi qu'il peut dire à un moment donné, l'heure est venue. Et qu'il meurt sur la croix à l'heure fixée par le Père pour que les hommes puissent être sauvés. Nous ne faisons que marcher en disciples de Jésus-Christ lorsque nous apprenons à vivre dans le temps de Dieu. Première leçon du torrent de Kérit, un des secrets d'une vie chrétienne heureuse, c'est de vivre une journée à la fois. Ce sont les grandes périodes qui nous fatiguent. Mais en fait, il n'y a pas de grandes périodes. La vie ne nous arrive pas tout d'un coup. Demain ne nous appartient pas, mais lorsqu'il viendra, Dieu nous donnera notre pain quotidien et notre force quotidienne. Apprendre à vivre dans l'aujourd'hui de Dieu, à sa gloire, même lorsqu'il plaît à Dieu de nous mettre sur le grill pour que nous apprenions à dépendre de lui et à vivre dans son temps. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce début de l'histoire d'Élie, pour ces versets sur lesquels nous pourrions passer tellement vite. Quelque part, ils nous apparaissent tellement secondaires. Ce torrent qui peu à peu baisse jusqu'à être à sec. Et pourtant, Seigneur, quel enseignement de ta part sur l'épreuve du temps, l'école du temps. Pardon pour toutes les fois où j'ai devancé ton temps, où j'ai été en retard sur ton temps, où j'ai été impatient, d'une impatience incrédule et coupable. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai élaboré des combines, où j'ai construit des barrages. Seigneur, merci pour ta patience. Merci parce que tu sais répéter les leçons. Mais Seigneur, fais-nous entrer de plus en plus dans l'intelligence de ton temps. Et donne-nous de vivre dans le repos, puisque nous savons, ta parole dit, que nos temps sont dans ta main. Alors bénis-nous les uns et les autres en nous visitant dans ce domaine du temps, parce que nous avons nous-mêmes des échéances fixées devant nous. Et Seigneur, nous sommes peut-être inquiets. Et plus l'échéance approche, plus nous sommes paniqués. Seigneur, durant cette soirée, tu as voulu aussi nous rassurer et nous encourager à vivre à ton rythme. Et merci Parce que cela signifie aussi que, puisque tu nous annonces ton retour, Seigneur Jésus, il viendra à l'instant prévu dans ton plan. Tu ne tarderas pas. Nous t'attendons. Et nous voulons être au rendez-vous aussi de ce grand moment dans l'histoire du temps où nous te rencontrerons pour être éternellement avec toi. Donne-nous d'être prêts dans le temps pour ce moment. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen.